Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Écrivain, poète, critique littéraire et traducteur d'origine suisse, Philippe Jacotet est sans aucun doute un des poètes parmi les plus importants de notre époque. Il habite à Grignan avec son épouse, l'aquarelliste Anne-Marie Jacotet-Hessler, et ne cesse de travailler. Son œuvre est, après celle d'Henri Michaux, le sujet du plus grand nombre de thèses et de mémoires, à découvrir absolument.
De plus en plus, je m'assure qu'il n'est pas de plus beau don à faire, si on en a les moyens, que cette musique-là, déchirante non par ce qu'elle exprime, mais par sa beauté seule. Nous retrouvons Philippe Jacotet, dont nous vous proposons maintenant d'écouter la lecture qu'il a faite à Paris au Centre culturel suisse, le 2 février dernier, à l'occasion de l'exposition des peintures d'Anne-Marie Jacotet-Hessler, présentée jusqu'au 18 février.
Mesdames, Messieurs, je crois que je puis dire aussi, pour autant que j'en puis juger dans cette demi-pénombre, chers amis, je voudrais commencer par remercier le Centre culturel suisse dans son ensemble, incorporé, comme on disait en Suisse à propos du Conseil fédéral, je ne sais pas si on le dit en France aussi, parce que la chaleur de leur accueil pour Anne-Marie et pour moi m'a fait me féliciter, ce n'était pas toujours le cas, d'être tout de même resté citoyen suisse, en dépit des liens étroits qui m'attachent à mon pays d'adoption. Et naturellement, je ne puis pas oublier que j'ai parcouru les rues de cette ville qui reste, à mes yeux, la plus belle du monde, il y a 55 ans, pendant 7 années de suite. Cela étant dit, maintenant je pense à Leopardi en 1836, composant son poème du Genêt au pied du Vésuve, montagne exterminatrice, sur les flancs de laquelle tout n'est qu'aridité et ruine. Et s'il y respire encore le parfum du Genêt, c'est en sachant de science très amère que cette fleur, que ce parfum eux-mêmes disparaîtront un jour, à jamais, un peu plus tard seulement que les villes ensevelies. Nous autres qui vivons tous au pied d'une menace pire, pouvons-nous encore espérer voir fleurir ou faire fleurir ici le moindre poème. Leopardi encore, dans ses carnets du Zibaldone, je le cite, « Tout est mal », c'est-à-dire que tout ce qui est mal, que toute chose existe, est un mal. L'existence est un mal et elle est ordonnée pour le mal. L'ordre et l'état, les lois, le cours naturel ne sont que mal et ne tendent qu'au mal. C'est écrit une trentaine d'années, je crois, avant que Baudelaire ne note dans ses carnets à lui « Le monde va finir » et qu'il ne peigne sa vision de l'avenir. Alors, ce qui ressemblera à la vertu, que dis-je, tout ce qui ne sera pas l'ardeur vers Plutus sera réputé un immense ridicule. La justice, si à cette époque fortunée il peut encore exister une justice, fera interdire les citoyens qui ne sauront pas faire fortune. Vision de l'avenir à laquelle notre temps sera parvenu à ressembler presque trait pour trait. Et pourtant, quand je me remémore tel fragment de poème de Leopardi, les vagues stelle de l'orsa, les vagues astres de l'ours, qui ouvrent le poème des souvenances, quand je me rappelle les vie dorate et liorti, les rues dorées et les jardins du poème à Sylvia, et même rien que cette note et encore fragmentaire des souvenirs d'enfance et d'adolescence, et finalement une voix, ah, voilà la pluie. C'était une légère petite pluie de printemps, et tous se retirèrent, et l'on entendait le bruit des portes et des verrous. Quand je réentends rien que ces quelques mots, qui sont de pure poésie aussi fragile que lumineuse, il me semble, absurdement j'en conviens, qu'ils suffisent presque à faire reculer très loin l'ombre de la pire montagne. Leopardi, toujours, inlassablement il a déploré que les héros, les nymphes et les fables, que toutes les divinités soient mortes. Certes, les divinités qu'il regrette, ce ne sont pas les dieux tyranniques, justiciers, militaires, dont Lucrèce avait souhaité que l'homme se débarrasse une fois pour toutes, non. Ces divinités-là, j'ai cru les voir un jour déjà lointain en Grèce, au musée de l'Acropole, rangés en demi-cercle comme sur un cadran les heures du matin, juvéniles porteuses d'offrandes, offrandes elles-mêmes, vêtues, on dirait, du seul frémissement de la mer dans les plis de leurs robes. Ce frémissement de la mer, il tremolar de la marina, qui est aussi la première merveille terrestre venue laver le regard de Dante, enfin remonté de l'enfer au début du purgatoire. Divinité qui, loin de surplomber, éclaire. Or, il m'a semblé quelquefois que, même aujourd'hui, ces divinités enfuient, même ayant perdu leur nom, même absentes, éclairaient encore de leur très énigmatique lumière certains moments de notre vie, qu'elles nous rendaient pour un instant la fraîcheur même d'où elles ont surgi un jour, et cela jusqu'au pied de la montagne d'où ne peut venir que l'anéantissement. Fleur ou parfum plus tenace qu'on ne l'aurait cru, ou aussi bien, pour les traduire, poèmes et images peintes. Disant cela, c'est comme si je m'étais mise à parler obliquement des œuvres accrochées non loin d'ici, salle Jean-Jacques Rousseau, et je me demande si cette salle, baptisée à son nom, ce n'est pas ce mois-ci que Rousseau reviendrait le plus volontiers la hanter, lui qui a rêvé de fêtes où nous nous retrouverions tous grâce à la transparence du cœur, en accord naturel avec le monde naturel, comme, mais c'est plus difficile, avec autrui. Fragment discret d'une fête à moitié rêvée, à portée de notre main. Dès lors, je ne pouvais choisir de lire ce soir que des textes qui fussent en accord plus ou moins étroit avec la luminosité de ses œuvres, des textes qui rappellent quelquefois dans le don d'une sorte de grâce inespérée ces moments éclairés. Je commencerai donc par un choix de brefs poèmes tirés du recueil R, qui est un recueil qui date déjà de plus de 35 ans et dont les parties sont ordonnées selon les saisons et qui commence, ce qui s'accorde bien avec la circonstance, par une série intitulée « Fin d'hiver ». Peu de choses, rien qui chasse l'effroi de perdre l'espace et laisser à l'âme errante, mais peut-être plus légère, incertaine qu'elle dure, est-elle celle qui chante avec la voix la plus pure les distances de la terre. Une semaison de larmes sur le visage changé, la scintillante saison des rivières dérangées, chagrin qui creuse la terre. L'âge regarde la neige s'éloigner sur les montagnes. Dans l'herbe à l'hiver survivant ses ombres, moins pesantes qu'elles, des timides bois patients sont la discrète, la fidèle, l'encore imperceptible mort. Toujours dans le jour tournant, se vole autour de nos corps. Toujours dans le champ du jour, ces tombes d'ardoises bleues. Vérité, non-vérité se résorbent en fumée. Monde, pas mieux abrité que la beauté trop aimée, passer en toi, c'est fêter de la poussière allumée. Vérité, non, vérité brille, cendre parfumée. Lune à l'aube d'été. Dans l'air de plus en plus clair scintille encore cette larme ou faible flamme dans du verre quand du sommeil des montagnes monte une vapeur dorée. Demeure ainsi suspendu sur la balance de l'aube, entre la braise promise et cette perle perdue. lune d'hiver. Pour entrer dans l'obscurité, prends ce miroir où s'éteint un glacial incendie. Atteins le centre de la nuit, tu n'y verras plus reflété qu'un baptême de brebis. Jeunesse, je te consume avec ce bois qui fut vert, dans la plus claire fumée qu'ait jamais l'air emporté. Âme qui de peu t'effraie, la terre de fin d'hiver n'est qu'une tombe d'abeilles. Au dernier quart de la nuit, hors de la chambre de la belle, rose de braise, de baiser, le fuyard du doigt désignait Orion, l'ours, l'ombelle à l'ombre qui l'accompagnait. Puis de nouveau dans la lumière, par la lumière même usée, à travers le jour vers la terre, cette course de tourterelle. Ô compagne du ténébreux, entends ce qu'écoute sa cendre afin de mieux céder au feu. Les eaux abondantes descendent au degré d'herbes et de roches, et les premiers oiseaux louaient la toujours plus longue journée, la lumière toujours plus proche. Dans l'enceinte du bois d'hiver sans entrée, tu peux t'emparer de l'unique lumière due. Elle n'est pas ardent bûcher ni lampe aux branches suspendues, elle est le jour sur l'écorce, l'amour qui se dissémine, peut-être la clarté divine à qui la hache donne force. Quelques poèmes tirés d'une série marquée par l'ardeur de l'été qui s'intitule Oiseaux, fleurs et fruits, et où se cache sans doute derrière les pages un petit dieu aujourd'hui tellement exhibé jusque sur les panneaux de publicité et partout, qu'il semble en avoir perdu tout son pouvoir, alors que je l'ai toujours pensé d'autant plus puissant qu'il serait plus obliquement dit. Une paille très haut dans l'aube, ce léger souffle à ras de terre, qu'est-ce qui passe ainsi d'un corps à l'autre, une source échappée au bercail des montagnes, un tison. On n'entend pas d'oiseau parmi ces pierres, seulement très loin des marteaux. Toute fleur n'est que de la nuit qui feint de s'être rapprochée, mais là, d'où son parfum s'élève, je ne puis espérer entrer. C'est pourquoi tant il me trouble et me fait si longtemps veiller devant cette porte fermée. Toute couleur, toute vie naît d'où le regard s'arrête. Ce monde n'est que la crête d'un invisible incendie. Tout à la fin de la nuit, quand ce souffle s'est élevé, une bougie d'abord a défailli. Avant les premiers oiseaux, qui peut encore veiller. Le vent, je sais, qui traverse les fleuves. Cette flamme où l'arme inversée, une obole pour le passeur. Une aigrette rose à l'horizon, un parcours de feu, et dans l'assemblée des chaînes, la huppe étouffant son nom, feux avides, voix cachées, courses et soupirs. L'œil, une source qui abonde, mais d'où venue? De plus loin que le plus loin, de plus bas que le plus bas, je crois que j'ai bu l'autre monde. Ah, l'idylle, encore une fois, qui remonte du fond des prés avec ses bergers naïfs, pour rien qu'une coupe embuée où la bouche ne peut pas boire, pour rien qu'une grappe fraîche brillant plus haut que Vénus. Martinet, au moment orageux du jour, au moment hagard de la vie, ses faucilles au ras de la paille, tout crie soudain plus haut que ne peut gravir Louis. Fruits. Dans les chambres des vergers, ce sont des globes suspendus que la course du temps colore, des lampes que le temps allume et dont la lumière est parfum. On respire sous chaque branche le fouet odorant de la hâte. Ce sont des perles parmi l'herbe de nacre, à mesure plus rose que les brumes sont moins lointaines, des pendeloques plus pesantes que moins de linge elles ornent. La foudre d'août, une crinière secouée, balayant la poudre des joues si hardie que lui pèse même la dentelle. Le souci de la tourterelle, c'est le premier pas du jour, rompant ce que la nuit lit. Où nul ne peut demeurer ni entrer, voilà vers quoi j'ai couru la nuit venue comme un pillard, puis j'ai repris le roseau qui mesure l'outil du patient. Image plus fugace que le passage du vent, bulle d'iris où j'ai dormi, qu'est-ce qui se ferme et se rouvre, suscitant ce souffle incertain, ce bruit de papier ou de soie et de lame de bois léger, ce bruit d'outil si lointain que l'on dirait à peine un éventail. Un instant, la mort paraît vaine, le désir même est oublié pour ce qui se plie et déplie devant la bouche de l'aube. La troisième série de poèmes dont j'extrais quelques fragments s'intitule « Chant d'octobre ». Et il y règne peut-être cette ombre de mélancolie qui est celle de l'âge approchant. mais aussi cette limpidité plus grande du ciel d'automne. Tout un jour, les humbles voix d'invisibles oiseaux, l'heure frappée dans l'herbe sur une feuille d'or, le ciel à mesure plus grand. Les chèvres dans l'herbage sont une libation de lait. Où est l'œil de la terre, nul ne le sait. Mais je connais les ombres qu'elle apaise. Dispersées, on voit mieux l'étendue de l'avenir. Pommes éparses sur l'air du pommier, vite, que la peau s'empourpre avant l'hiver. Dans l'étendue, plus rien que des montagnes miroitantes, plus rien que d'ardents regards qui se croisent, merles et ramiers. Oiseaux. Flamme sans cesse changeant d'air qu'à peine on voit quand elle passe, crise en mouvement dans l'espace. Peu ont la vision assez claire pour chanter même dans la nuit. Je garderai dans mon regard comme une rougeur plutôt de couchant que d'aube qui est appel non pas au jour mais à la nuit, flamme qui se voudrait cacher par la nuit. J'aurai cette marque sur moi de la nostalgie de la nuit. Quand même la traverserai-je avec une serpe de lait. Il y aura toujours dans mon œil, cependant, une invisible rose de regret, comme quand au-dessus d'un lac a passé l'ombre d'un oiseau. Et des nuages très hauts dans l'air bleu qui sont des boucles de glace, la buée de la voix que l'on écoute à jamais tue. La prose plus récente que je voudrais vous lire maintenant, j'espère qu'elle ne sera pas trop longuette, s'intitule « Au col de l'arche » et je crois qu'elle montre assez bien comment le poète, lorsque ne lui sont pas accordés ces moments, ces instants qui ont l'air de se transposer tout seul dans son esprit en poème bref, et qui sont évidemment ce dont il rêve toujours, et ce que ne lui est accordé que rarement, comment alors par des détours, par des marches, par des retours en arrière, des reculades, des digressions qui peuvent parfois même l'agacer, lui le tout premier, essaye tout de même de rejoindre cette fraîcheur qui d'autrefois lui vient plus aisément, lui venait surtout plus aisément. Il s'agit donc d'une prose intitulée « Au col de l'arche », qui est un col qui joint la France et l'Italie, mais qui n'est pas très fréquenté, au-dessous du col, plus au sud que le col du Mont Genèvre. S'il pouvait y avoir encore aujourd'hui une ouverture, un ray de lumière sous la porte cloutée, et pour une fois je ne perdrai pas un instant à l'obturer de tout ce qui maintenant et depuis toujours le met en doute. Je ne perdrai pas un instant à louvoyer, à larmoyer, s'il pouvait y avoir encore quelque chose aujourd'hui, comme une ouverture, justement le col même, où j'ai d'abord pensé cela, ayant revécu sans aussitôt m'en rendre compte une joie d'enfance très lointaine, ce devrait être celle-là pour moi mieux qu'aucune autre. Quand même, cela paraîtrait ne vouloir rien dire, me raccrochant à ce nouveau non-sens, faute de plus probantes raisons. Ce bondissement, ces bonds des eaux alpestres, des eaux glacées à la fin du jour, cette chute rieuse, réjouie, ravie, cette dévalée ou dévalade des eaux, à côté du sentier que nous remontions essoufflé par la pente, frissonnant un peu parce que la nuit rapidement tombait, était tombée, elles étaient encore claires, au point d'être à peine visibles, d'exister à peine pour les yeux, de seulement faire mieux voir, faire briller les schistes du fond. Rieuse, réjouie, ravie, c'était, quand j'y ressonge, plus caché, plus évasif, plus lointain que cela. Au-dessus de nos yeux, là où la pente se faisait encore plus abrupte et les obstacles à leur course plus hérissés de vraies herses de pierre, elles se montraient tout à fait blanches et plus drues, au point qu'on aurait parfaitement pu les croire en cette venue de la nuit une coulée de neige. Si la neige n'était du silence amoncelé alors qu'elles explosaient, qu'elles tonnaient avec impétuosité fougueuse au milieu de ces herbages troués d'antre de marmottes. Plus haut encore, tout à fait en haut, se dressaient des bastions, des forteresses. Il y en avait même une à proprement parler, signalée sur la carte et désertée à coup sûr depuis longtemps, comme vides étaient les cimes. Le paysage héroïque, cela existe aussi. Dans le plus lâche d'entre nous peut subsister un élan qui lui réponde. Même en cette fin de millénaire, on n'est pas absolument tenu de n'accorder de réalité qu'à l'ignoble. Comment cela pouvait-il sourdre de ces pierres, de ces masses énormes, graves, immobiles, sans qu'aucun Moïse ne fût visible près ou loin, à moins que l'une ou l'autre de ces montagnes cornues en évoquât le souvenir ou le retour possible. Presque une canonnade. C'est pourquoi rieuse, réjouie, ravie ne convient pas à ces eaux fougueuses, violentes, mais non cruelles, non guerrières, en dépit de cette couronne de bastions. Ce serait encore trop les rapprocher de nous. Fraîches, usées par rien, troublées par rien, premières. Le plus étrange étant peut-être qu'elles fussent à la fois l'image du temps le plus rapide, le plus preste, le plus allègre, et hors du temps, ou du moins inaltéré par le temps. Les plus désaltérantes d'être inaltérées. Col de l'Arche, ou de l'Arche, en deux mots, d'où s'envoleraient à grand bruit ces autres colombes en un temps de fin du monde, et l'on en serait apaisé. Et pour les Italiens, pas de la Madeleine, comme si c'était de nouveau toute une chevelure, qui se dénoue et se déploie, mais pour guérir cette fois vos pieds à vous, les pieds de tout voyageur parvenu à ce relais. Dans un conte de Yeats passe quelque part une ombre chargée d'années, chantonnant « Je suis belle, je suis belle, je suis jeune, regardez-moi montagne, regardez-moi bois périssant, car mon corps brillera comme les eaux blanches quand vous aurez été emportée. » Ce fragment de chant, saisi au passage de la façon dont on en surprend d'autres en plus d'un lieu de la Divine Comédie, a l'air de dire une pensée folle, de dire rapidement au passage que le plus bref, le plus rapide, survivra même aux montagnes. Et peut-être était-ce une folie assez semblable que j'entendais dire ici, à ces eaux. On voudrait que ce mot « torrent » fut le dernier mot, parce qu'à aucun ne convient plus mal l'épithète dernier. Non pas rieuse, ni ravie, ni guerrière, c'est que dans ces hauteurs, les juvéniles compagnes, rêvées ou non, il faut bien accepter qu'elles ne soient plus aussi proches et leur donner congé si l'on veut vraiment saisir cette autre proie sans plus céder à leur charme. Il ne s'agit plus du tintement d'un rire, ni de proie. Cette musique est autre. Cette voix n'est plus une voix. Je me défends aussi de convoquer les anges désormais. Le mot vient trop vite aux lèvres dans ses hauteurs, ou bien il n'est qu'un souvenir dans le goût de ces flambeaux anciens qu'on descend du grenier pour orner une fête, une scène de théâtre et de ces mots de gala dont on croit rehausser à trop peu de frais un poème, ou bien, si subsiste là ne serait-ce qu'un peu de substance vraie, l'expérience en doit être trop intense et trop intérieure pour qu'on ne montre pas d'extrême scrupule à s'en servir. Ici, il ne faut pas rêver, ni se perdre en regrets. Rêves et regrets vous distraient, usent le présent, précipitent la fin. De toute manière, il n'en est plus temps. Et que j'ai été ce soir-là, mais d'autres fois auparavant, de façon plus floue, reportée à des moments d'enfance dans la montagne où j'ai aimé jouer au bord des torrents, les franchir, simplement les entendre, de sorte que je pourrais penser comme mon étonnement d'aujourd'hui en rejoignant ceux d'il y a tant d'années sans que j'y sois pour rien, serait le fil scintillant qui manifesterait l'unité et la persévérance de ma vie. Cette remontée du temps suffirait-elle à expliquer l'éclat dont brille ce moment récent de ma fable? Est-il si prodigieux, après tout, et si important de rejoindre son enfance, comme si l'on retrouvait le fil du labyrinthe que l'on aura été? Est-ce que ce labyrinthe vaut la peine qu'on s'y perde, s'y attarde, s'y retrouve? Je ne crois pas, au fond, que ce soit cela qu'a semblé m'avoir dit la parole issue précipitamment de la bouche de Pierre. Ces rapides bonds des eaux par-dessus des barrières noires ou violettes de schiste. À quelques pas de ce col où la neige fondante le lendemain matin, dans le beau soleil du matin, imprégnerait l'herbe épaisse et jaunie des alpages, et d'où la route vers le Piémont semblerait descendre en sinuant dans un cratère de verdure et de lumière, Marie. Je voudrais faire entendre et moi-même écouter sans fin cette parole précipitée, cette voix froide, allègre, sonnant sur des peignes ou des plectres d'ardoise tels qu'il n'en est pas de pareil en ce monde. Torrent choisi pour dernier mot, quoi qu'il puisse advenir ensuite de celui qui l'aura tracé, du fait même que l'épithète dernier ne peut en aucun cas lui convenir parce qu'il jaillit, se rue, abonde comme personne jamais n'aurait imaginé que cela puisse faire à partir de la pierre, du fond de ces grands tombeaux froids. Une blancheur d'effraie, envolée dans le commencement de la nuit, à l'approche de la nuit, n'était cette rumeur bien autre chose qu'un froissement de plumes. Cette course presque invisible qui fait sonner l'ardoise des plectres, qui produit cette sonorité d'ardoise dans l'imminence de la nuit dans ses hauteurs, où la nuit est tout de suite très froide, ou comme une bête mince courrait, fuyant Orion, dans un couloir d'herbe épaisse, dallée de schiste, ou comme aussi le passage précipité d'un de ces troupeaux transhumants qu'on a pu voir il y a déjà longtemps éclairer vaguement nos nuits. Ainsi ce lieu me veille d'images pures. Je ne veux pas les effacer pour le moment, passant le col en contrebande, vêtu en colporteur d'images, ce serait trop beau. Aiguillée d'eau dans l'herbe déchirée, fraîcheur. Là pourrait être le secret, le foyer, prestesse, allégresse. Je parviens là, enfin, c'est mon asile d'un instant. Nul besoin d'aller au-delà. Dans la montagne qui naît, qu'immobilité, gravité, silence, au pied de ces monuments funèbres, je vois, j'écoute quelque chose qui pourrait être le temps, courir avec une sorte d'allégresse, en scintillant de loin en loin, mais sans marquer la moindre usure, sans rien perdre encore non plus de sa limpidité. Je le vois, je l'entends qui court. Et pourtant, on le dirait pareil à l'immobilité du ciel nocturne même, si ces constellations d'eau s'éparpillent trop vite pour qu'on puisse jamais songer à leur donner un nom. Mais ce n'est pas assez qu'ils courent ainsi sans s'user, sans se corrompre, éternellement rapide et jaillissant, c'est sa fraîcheur fichée dans le froid de la nuit et de l'altitude qui vous fait arrêter là en esprit pour un instant, pour très longtemps, pour toujours. Serait-elle par nous, sans qu'on puisse comprendre comment, saisissable, imaginable, approchable? L'éternité n'est pas autrement fraîche. Voilà ce qui semble être dit par le torrent. Pourtant que je ne l'oublie pas, ce n'est pas une voix, malgré les apparences. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas de la poésie, c'est de l'eau qui bouscule les pierres et j'y aurais trempé mes mains. Il ne faut ni orner, ni troubler, ni freiner ce cours, que l'on puisse y tremper les mains et même les lèvres, est rigoureusement vrai, mais est-il moins rigoureusement vrai, que ce n'est pas seulement de l'eau qui dévale de ces montagnes. N'est-ce pas cela que j'ai cru comprendre ailleurs, à propos d'une combe, d'un verger, d'une prairie, quand, les traversant, je me laissais traverser par eux. Le torrent parle, si l'on veut, mais avec sa voix à lui, le bruit de l'eau. Serait-ce donc que sans m'en être avisé jusqu'ici, l'esprit décidément bien lent, bien obtus, je cherche à dire l'intérieur de ce bruit, de cette course, l'invisible en ces eaux par quoi il touche ce que j'aurais en moi d'invisible. Torrent, ce qui brûle, comme si la chose la plus fraîche pouvait être une flamme un instant entre deux mondes, et que le voyageur âgé, se retournant au moment de passer le col vers sa déjà lointaine enfance, à peine quelques lambeaux de brume là-bas au fond du val, eut l'espace d'une seconde, l'illusion de rejoindre plutôt ce qui encore l'attendrait. Pour terminer, je vous lirai une sorte d'hommage à la musique intitulée à Henry Purcell, une très courte suite de poèmes extraits de Pensées sous les nuages, et dont l'origine est l'écoute une nuit en pleine campagne et presque en plein air d'un récital du haut de contre James Bowman à Paris, qui était retransmise par la radio. Écoute. Comment se peut-il que notre voix troublée se mêle ainsi aux étoiles? Il lui a fait gravir le ciel sur des degrés de verre par la grâce juvénile de son âme. Il nous a fait entendre le passage des brebis qui se pressent dans la poussière de l'été céleste et dont nous n'avons jamais bu le lait. Il les a rassemblés dans la bergerie nocturne où de la paille brille entre les pierres. La barrière sonore est refermée, fraîcheur de ces paisibles herbes, à jamais. Ne croyez pas qu'il touche un instrument de cyprès et d'ivoire, comme il semble, ce qu'il tient dans les mains et cette lyre à laquelle Vega sert de clé bleue. À sa clarté, nous ne faisons plus d'ombre. Songe à ce que serait pour ton ouïe, toi qui es à l'écoute de la nuit, une très lente neige de cristal. On imagine une comète qui reviendrait après des siècles du royaume des morts, et cette nuit traverserait le nôtre en y semant les mêmes graines. Nul doute cette fois, les voyageurs ont passé la dernière porte. Ils voient le cygne scintiller au-dessous d'eux. Pendant que je t'écoute, le reflet d'une bougie tremble dans le miroir comme une flamme tressée à de l'eau. Cette voix aussi n'est-elle pas l'écho d'une autre, plus réelle? Va-t-il l'entendre, celui qui se débat entre les mains toujours trop lentes du bourreau? L'entendrai-je, moi, si jamais il parle au-dessus de nous, entre les arbres constellés de leur avril? Tu es assis devant le métier haut dressé de cette harpe. Même invisible, je t'ai reconnu, tisserand des ruisseaux surnaturels.
Philippe Jacotet, au Centre culturel suisse à Paris, le 2 février dernier. Du jour au lendemain, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 février 2001.